Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le souvenir était encore frais. 12 ans seulement s'étaient écoulés depuis l'événement, le 26 août 1944. Le Tédéum était prévu à 17h. Certaines personnes étaient entrées à Notre-Dame de Paris dès le tout début d'après-midi. Les balles allaient siffler. D'où cela ? Du fond de la cathédrale, des premières galeries, le général continuait à avancer. Que se passait-il réellement ? Le mieux est d'écouter les témoins, des témoins dans le public, et un témoin journaliste, témoin rassemblé par André Gillois, le 26 janvier 1956, sur la chaîne parisienne, pour son émission « Soyez témoins ».
Soyez témoins, une émission d'André Gillois.
Nous allons ce soir évoquer un événement beaucoup plus récent que ceux dont nous nous sommes jusqu'ici occupés. Cet événement remonte au 26 août 1944 et c'est l'incident qui s'est produit à Notre-Dame de Paris au cours du Tédéum de la Victoire. Et nous avons choisi cet événement parce que nous avons un témoignage authentique, à savoir le reportage fait par Raymond Marcillac sur les lieux mêmes de l'événement le 26 août 1944. Mais avant de vous le faire entendre et de demander à Marcillac ce dont il se souvient, je vais interroger les personnes qui ont bien voulu m'écrire. Je vais demander son témoignage à mademoiselle Marguerite-Marie Péressin, qui m'a écrit qu'elle avait 8 ans au moment du 26 août 44 et qui, me dit-elle, a gardé de cette journée un souvenir très vif. Alors mademoiselle, voudriez-vous me dire d'abord où vous étiez ? Je crois que vous n'étiez pas dans l'église.
J'étais à l'extérieur. Au pont d'Arcole. Et le général de Gaulle venait juste de passer lorsque le premier coup de feu a donné, enfin il était passé, devait être arrivé à Notre-Dame à ce moment-là. Et le premier coup de feu qu'a donné le départ de la bataille est parti de la tour gauche, hauteur du premier étage.
De la tour de Notre-Dame, oui, hauteur du premier
oui.
étage.
Oui, et alors là je crois que ça a déclenché une bataille. Toute la panique est partie, plusieurs coups de feu sont partis à ce moment-là et les gens sont tous reculés, c'était un sauve-qui-peut général. Alors nous n'avions pas pu rentrer parce qu'on était arrivé trop tard et Notre-Dame était plein.
Ah, vous aviez voulu d'abord rentrer ?
Oui, j'ai voulu rentrer mais je n'ai pas pu.
On vous avait demandé des papiers pour rentrer ?
Non, pas du tout, tout le monde rentrait comme il voulait. Une église c'est un lieu où tout le monde a droit de rentrer. Alors maman a dit, je vais vous amener au pont d'Arcole parce que là vous le verrez sortir le général de Gaulle de l'hôtel de ville pour partir vers Notre-Dame. J'étais au premier rang. J'ai bien vu le général de Gaulle sortir avec son escorte. Je me rappelle, j'ai crié au moment, regarde-le comme il est beau. Je ne sais pas ce que je trouvais de beau, mais il était beau quand même pour moi. Et il y avait pas mal de monde et je pense qu'à ce moment-là, quand le coup de feu était parti, il avait dû arriver à Notre-Dame déjà.
Vous pensez qu'il était déjà entré
oui,
dans la cathédrale ?
Tout du moins, il allait mettre. Oui, il devait être entré déjà dans la cathédrale.
Mais il était arrivé en auto ?
En automobile découverte.
Alors, quand vous avez entendu le coup de feu, vous avez été prise dans la panique générale et votre mère a dû vous prendre par la main pour se sauver avec vous, j'imagine.
Non, on a été pris dans la panique générale. J'étais avec ma mère, mon père qui est aveugle et qui avait absolument tenu à venir à cette cérémonie. Mais il y avait des coups de feu, c'était une vraie bagarre. Je me rappelle qu'il y avait des jeeps. Les soldats sont arrivés, ont pris des jeeps. Je me rappelle très bien qu'il y avait un vieux monsieur caché sous une jeep. Il ne voulait absolument pas bouger. Les soldats avaient beau lui comprendre que c'était pour lui, que c'était pour sauver les gens. Il n'y avait rien à faire. Il était caché là-dessous. Il ne voulait pas bouger. Ça bouchait tout le passage. Tout le monde gesticulait. Mais en fin de compte, alors là, un coup de feu général est parti. On est obligé de se mettre à plat ventre. Alors tout le monde était à plat ventre. Et je me rappelle, j'ai jamais entendu de prière de ma vie, je crois. Et des « Je vous salue Marie ». Comme des mots, on voulait voir ce qui se passe. Et maman, instinctivement, vous appuyez sa main sur sa tête et disait « Priez, dites votre prière ». Et on recommençait. En fin de compte, on a réussi quand même à se sauver et nous avons fini dans l'hôtel Dieu. C'est peut-être très vague ce que je vous dis, parce que j'étais très jeune, je vous dis, c'est des souvenirs qui sont restés gravés. C'est peut-être pas les choses principales, mais enfin, pour moi, c'est déjà pas mal.
Merci infiniment, mademoiselle. J'ai devant moi Monsieur Georges Delarue. Étiez-vous à Notre-Dame même ou...
Non, j'étais sur le parvis.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien voilà, nous étions partis, ma femme, mon petit garçon et moi, à bicyclette, et arrivés sur le parvis, nous sommes parvenus jusqu'à un réverbère où j'ai attaché les trois bicyclettes avec un câble électrique en disposant des planchettes sur les cadres des bicyclettes sur lesquelles nous sommes montés. Alors nous voyions très bien l'ensemble de la foule et l'entrée de Notre-Dame. Et mon attention a été attirée tout d'abord par les niches des saints qui se trouvent immédiatement au-dessus du portail. Et derrière ces saints, je voyais des hommes qui remuaient, qui semblaient, n'est-ce pas, être des curieux. Tout de même, j'ai été un peu surpris parce que je me suis demandé comment ces gens étaient parvenus à grimper derrière les niches des saints. Puis tout d'un coup... mon petit garçon avait emporté son appareil de photo. Je lui ai dit, écoute, j'entends une grande rumeur qui vient de la rue d'Arcole. Certainement que le cortège doit arriver. Alors il a pris son appareil, prêt à prendre l'arrivée du général de Gaulle. Et au même instant, la rumeur ayant augmenté, j'ai entendu très nettement le claquement de deux coups de feu dans la rue d'Arcole. Immédiatement, j'ai pensé à un attentat. Mais je n'ai pas eu le temps d'avoir de plus ample réflexion. Le cortège débouchait sur le parvis, et alors immédiatement, du haut de ces niches de saints où j'avais vu des hommes bouger, est partie une véritable fusillade, un crépitement très très nourri. Nous avons été frappés de stupeur, enfin, et comme j'ai fait la guerre de 14, j'avais l'habitude de faire des plaventes bien des fois dans les batailles. Je me suis trouvé par terre aplati, serrant mon petit garçon près de moi. Je disais à ma femme, couche-toi, mais elle s'accroupissait pas assez à mon goût, n'est-ce pas? Alors je lui ai dit, couchez-vous, incorporez-vous au sol, parce que nous allons nous faire certainement blesser. Alors devant nous, la foule avait reculé en désordre, et heureusement que nos bicyclettes devant nous attachées au réverbère formait un véritable rempart. Et je dois vous dire également que de chaque côté du parvis, les voitures blindées de l'armée du général Leclerc étaient rangées. À gauche, le long de l'Hôtel Dieu, il y en avait une rangée. Et alors de l'autre côté, auprès du petit jardinet où est érigée la statue équestre de l'empereur Charlemagne, il y en avait également une rangée. Alors j'ai aperçu un soldat qui sautait dans une voiture et qui tournait sa tourelle de mitrailleuse et qui s'est mis à tirer de tous les feux de sa mitrailleuse. Alors d'autres soldats qui étaient là auprès, derrière, qui se mettaient à l'abri également derrière les voitures blindées, nous criaient « Restez pas là, allez-vous-en !» Alors nous, à quatre pattes, nous avons franchi le petit espace où nous aurions pu risquer d'être blessés. Nous avons traversé le petit pont où il y avait également des gens qui étaient accroupis derrière les parapets. Nous avons gagné la rue Saint-Jacques. Et arrivé rue Saint-Jacques, nous avons été repris par une fusillade qui partait vraisemblablement des toits de l'église Saint-Séverin. Et nous sommes rentrés à l'abri dans une pharmacie où on a apporté devant nous une dame en toilette claire qui avait sa robe toute maculée de sang. Et alors ensuite, nous sommes restés là peut-être une demi-heure. À ce moment-là, le parvis était à peu près vide. Il y avait pourtant quelques hommes qui étaient là avec des brassards et qui semblaient garder les objets de toutes sortes qui avaient été abandonnés, n'est-ce pas, dans la fuite et perdus. Et j'aperçus de loin nos trois bicyclettes qui étaient restées bien sagement accrochées au réverbère. Alors j'ai été pour les détacher. Un de ces hommes est venu, il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit « Je reprends mes bicyclettes. » Il me dit « Mais qu'est-ce qui me prouve qu'elles sont à vous ?» Je dis « C'est très facile. Vous saviez que les Allemands nous avaient obligés à mettre des numéros matricules. J'avais une carte qui correspondait au numéro, je lui ai fait voir. Et j'ai pris nos bicyclettes, nous sommes partis. » Nos émotions étaient terminées, mais nous avons eu bien peur. Voilà ce que j'ai vu.
Et bien, je vous remercie infiniment de ce récit qui est fait avec extraordinairement de brio. Et vos souvenirs sont vraiment d'une très grande précision.
Je vous remercie, monsieur.
J'ai devant moi mademoiselle Vézinet, qui m'a écrit qu'elle avait assisté à la fameuse cérémonie de Notre-Dame le 26 août 1944. Mademoiselle, vous étiez dans la cathédrale.
Oui, j'étais à l'intérieur même de la cathédrale.
Bon, alors, vous y étiez entrée à quel moment?
Oh, j'y étais entrée de très bonne heure, parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde et j'avoue que je voulais être bien placée pour voir le général de Gaulle qui devait s'y rendre pour le Te Deum qui devait être célébré à Notre-Dame vers les 17 heures.
Alors, vous aviez eu un laissez-passer, comment aviez-vous pu
entrer ? Oh, non, on entrait très, très facilement par le portail principal.
À quelle heure êtes-vous entrée ?
Oh, je suis entrée un peu avant 13h45 pour 17h.
C'est ça, alors à ce moment-là, il n'y avait évidemment aucun service d'ordre et tout le monde a pu entrer.
Tout le monde pouvait entrer, il n'y a même, je crois, jamais eu de service d'ordre. Et ce dont je me souviens très bien, c'est que le portail principal n'a jamais été fermé.
Alors, vous vous êtes installée où cela ?
Alors, je me suis installée dans la nef principale, au bord d'une allée.
Et alors, si vous voulez bien rappeler alors vos souvenirs de l'événement ?
Alors, ce qui a paru le plus extraordinaire, c'est qu'on a entendu comme un certain brouhaha, et je me souviens très bien, peu avant 4 heures, alors que la cérémonie n'était prévue que pour 5 heures. Et en me retournant très vite, j'aperçus plus exactement le général de Gaulle, suivi de certaines personnalités.
Où est-ce qu'il était à ce moment-là ? Il n'était pas encore dans l'église.
Il pénétra par ce même portail central et monta la nef. Donc je le vis très très bien, je pouvais presque dire qu'il me frôla. Et puis il commençait à avancer dans la nef principale. Quant alors, ce qui fut extraordinaire et vraiment s'est déroulé comme dans un film, on pourrait dire, ce sont des crépitements, des balles sifflaient, et c'était pour moi alors tellement extraordinaire dans un tel lieu, n'est-ce pas, de penser que l'on pouvait tirer. Alors le général continuait à avancer, et vraiment la foule était prise de panique. Et je me rendis compte très vite que si je restais même à ma place, eh bien, les chaises qui formaient les rangées m'auraient très facilement, même sous la poussée de la foule, brisé les jambes. Et malgré la sainteté du lieu, je n'ai eu, je crois, qu'une chose à faire, c'était moi-même d'avancer comme les autres personnes. Et cela demanda quelques minutes pour nous retrouver, en somme, auprès de la table sainte, où le général était imperturbable. Et moi-même, je reconnus vite que j'étais à ce moment-là, alors, auprès de l'amiral Thierry d'Argentlieu. Et de l'autre côté de la table sainte, il y avait un prêtre. Je ne saurais plus dire comme précision si ce n'était pas un prélat. Un évêque auxiliaire, peut-être, du cardinal, qui lui, naturellement, n'était pas là, puisque ça faisait une heure d'avance, et il ne pouvait pas être encore arrivé. Et la fusillade continuait toujours. J'ai eu très nettement l'impression qu'elle venait du fond de la cathédrale, qu'elle venait même très exactement des grandes orgues, et de la première galerie, mais vraiment du fond de la cathédrale. Le général s'immobilisa un instant et on entonna le Magnificat, non pas le Te Deum, le Magnificat, et on chanta juste la première strophe. Et le général s'inclina, puis redescendit la nef. Et vraiment, c'était, je crois, pour tout le monde, une très forte impression de penser que les balles crépitant toujours, lui, si grand, avec sa haute stature, n'est-ce pas, reprenait le même chemin, alors qu'on avait l'air de penser qu'il courait au-devant du danger. Dès que le général eut franchi le portail, et ça nous semblait extraordinaire de penser qu'il ne pouvait même pas être atteint, les portes furent fermées. Et pour ma part, alors là, j'ai aussi l'impression qu'on enfermait les loups dans la bergerie, parce que ça continuait toujours à tirer. Et j'ai appris ensuite que c'est parce qu'il y avait une sorte de service d'ordre et que l'on voulait fouiller tout le monde. Alors, nous sommes restés encore assez longtemps. Et entre autres, pour les dames, on fouillait leur sac à main. Alors, le mien fut fouillé également. Nous sommes sortis par le portail de gauche quand on est à l'intérieur de la cathédrale.
Je vous remercie de ce récit. Je voudrais toutefois vous poser une question sur ce que je viens d'entendre. Lorsque le général de Gaulle est entré, il n'y avait pas encore de fusillade, en somme. La fusillade a commencé après son entrée dans la cathédrale.
Ah, très exactement. Oui. Ah, très exactement. Avant, pas du tout, parce que je pense que même alors, la foule aurait été surprise et peut-être qu'il y aurait eu brouhaha. Tandis qu'il est entré alors qu'il y avait un silence complet dans la cathédrale. Ça, c'est ce qui nous a justement très frappé, parce que nous ne pouvions pas penser un seul instant que c'était pour nous. Alors, la présence du général de Gaulle, qui aurait pu attirer cette fusillade, et fusillade qui venait certainement de la hauteur des premières galeries, même de l'orgue, ça arrive à aux premières galeries, alors qu'il eût été si simple qu'avec quelques grenades, en se trouvant dans la nef, près de l'allée centrale, mais il me semble qu'alors là, on atteignait immanquablement le général. C'est des choses là qui avaient frappé.
Eh bien, je vous remercie infiniment, chère madame. Nous allons demander maintenant à notre ami Raymond Marcillac, qui n'a pas écouté les témoignages que vous venez d'entendre, mais qui était à Notre-Dame le 26 août 1944, et qui était non pas comme un simple témoin, mais chargé par la radio de faire le reportage de la cérémonie. Les incidents n'étaient pas prévus, et très courageusement, il a continué son reportage, malgré les coups de feu et au risque de sa vie. Je vais lui demander, oubliant le reportage qu'il a fait, dont vous entendrez tout à l'heure un extrait, d'être ici un simple témoin de cet événement et de nous rappeler ses souvenirs de cette journée mémorable.
Eh bien, André Gillois, ce jour-là, j'étais doublement ému. Tout d'abord parce que ces heures de la libération de Paris demeureront à jamais gravées dans le cœur de tous les Français qui les ont vécues. Ensuite, parce que sur le plan radiophonique, ce jour-là, j'accomplissais mon premier reportage, et c'était mon premier reportage en direct.
Vous avez été servi.
J'étais servi, vous qui êtes un homme de radio, vous savez ce que cela peut donner. Eh bien, je suis entré dans l'église Notre-Dame, ce jour-là, dans la cathédrale, après avoir montré mon laissez-passer, car il fallait un laissez-passer pour pouvoir assister à ce tédéum, et le micro de la radiodiffusion de la Nation française, à ce moment-là, la radiodiffusion française s'appelait Radiodiffusion de la Nation française, était installé dans l'une des galeries. Je me suis donc mis à ce micro, et je pensais réaliser un reportage tout de suite. Or, on ne m'a donné l'antenne qu'au bout d'un certain temps. D'ailleurs, les gens qui étaient entrés dans la cathédrale Notre-Dame, et qui étaient comble, attendaient la venue du cardinal Suard, car vous savez que le cardinal Suard devait officier pour ce tédéum de victoire et devait recevoir le général de Gaulle. Pas de cardinal Suard. Nous avons su après que le cardinal Suard, pour des raisons indépendantes de sa volonté, était empêché et n'a pu donc venir dans cette cathédrale. Mais le général de Gaulle est venu, lui. Mais avant qu'il arrive, des coups de feu ont subitement retenti. D'où sont-ils partis? Personne n'en sait rien. Sont-ils partis des galeries? Sont-ils partis du bas? Personne n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a eu une panique générale à ce moment-là. Les gens se sont glissés tous à plat ventre sous leurs chaises. Et à ce moment-là, les portes de la cathédrale se sont ouvertes et le général de Gaulle a fait son apparition. Il était attendu dans le chœur par le chapitre des chanoines. Il est arrivé très calmement. Et il a continué sous la mitraille, exactement, car ça pétaradait absolument de tous les côtés, aussi bien d'en haut que d'en bas, car dès que les premiers coups de feu ont retenti, immédiatement, des soldats du général Leclerc qui se trouvaient sur le parvis sont entrés et ont fait feu avec leurs mitraillettes un peu dans tous les angles. Et le général de Gaulle, très calmement, sans allonger le pas, comme si de rien n'était, est arrivé jusqu'au cœur où il a été reçu par le chef du chapitre, je ne sais pas si le chef du chapitre, si c'est le terme exact, et il s'est installé dans le cœur alors que les gens étaient encore à plat ventre. Mais alors les gens, en voyant le général de Gaulle qui avançait avec cette dignité, ont repris confiance, petit à petit, se sont remis sur leurs pieds, si je puis dire, et ont entonné avec le chapitre des chanoines un magnificat. Pendant le magnificat, le général de Gaulle est resté assis dans le cœur. À ce moment-là, la mitraille s'est un peu atténuée. Et lorsque ce magnificat a été terminé, il s'est levé de nouveau très calmement et il est reparti vers la sortie. Il me reste un souvenir personnel assez pénible de cette journée, car je dois vous avouer que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, pourquoi? Eh bien parce que je me trouvais, comme je vous l'ai dit, dans une des galeries de Notre-Dame de Paris. Et je possédais à ce moment-là un micro que l'on appelle en termes de micro un micro-boule. Ce micro-boule ressemble, à s'y méprendre, à une grenade allemande. C'est exactement, c'est un micro qui se termine par une boule et qui a un manche. Et je le tenais à bout de bras. Moi-même, j'étais à plat ventre derrière un pilier, je dois l'avouer. Et je le tenais pour que tous les bruits qui se passaient au-dessous de moi puissent bien être tous enregistrés. Et j'avais très peur parce que je craignais que les soldats qui étaient entrés dans l'église, voyant de loin cette espèce de bras qui se tendait avec au bout une espèce de grenade allemande, ne prennent justement ce micro pour une grenade allemande et me tirent dessus. Heureusement, il n'en a rien été puisque je suis là et je peux vous raconter cette affaire aujourd'hui.
Bon, mais ce qui est très frappant dans cette extraordinaire histoire, c'est que les coups de feu qui sont partis, d'abord, on n'est pas pu repérer l'endroit où ils partaient. Vous n'avez eu aucune impression de direction.
Absolument, absolument pas. Vous savez, dans une église, il y a beaucoup d'échos,
oui.
Et on ne peut absolument pas situer l'endroit d'où part un coup de feu. C'est très, très difficile.
Mais
surtout lorsque vous n'êtes pas prévenu, lorsque ce coup de feu vous surprend.
Et vous avez
alors après, il y a eu une pétarade générale.
Mais au premier coup de feu, vous avez tout de suite compris que c'était un coup de feu.
Incontestablement.
Parce qu'il y avait eu déjà fusillades dans les rues.
Il y avait, depuis 2 ou 3 jours, des gens qui tiraient sur les toits, qui tiraient sur les gens qui passaient, évidemment. Et ça, mais nous n'attendions absolument pas à ce qu'il y ait une fusillade dans l'église.
Mais de l'église, vous n'entendiez pas ce qui se passait dehors à ce moment-là?
Pas du tout.
Donc vous ne pouviez pas vous attendre, en effet, à ces coups de feu?
Ils absolument pas.
Et alors, je comprends très bien qu'à partir du moment où les soldats de Leclerc tiraient du bas vers le haut, pendant que d'autres tiraient du haut vers le bas, il y ait une confusion telle qu'on ne puisse pas repérer les coups de feu. Mais au départ, vous n'avez pas eu, vous, l'impression que ça venait d'en haut ou d'en bas?
Absolument pas. Il y a une chose qui m'a étonné. Ensuite, d'ailleurs, je dois dire que sur le moment, on n'a absolument pas vu s'il y avait des gens blessés. Il y a certainement eu des gens blessés, mais je ne sais pas dans quelle proportion. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas eu davantage.
Oui. Eh bien, écoutez, nous allons entendre un extrait de ce reportage qui fera revivre, non seulement par les témoignages recueillis aujourd'hui, mais par ce témoignage de l'époque, la journée du 26 août 44 à Notre-Dame de Paris.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris. Les Allemands et leur 5e colonne, trahissant une fois de plus leurs paroles, ont repris le feu au cours de la cérémonie. Au moment où nous avons eu la disposition de la ligne, les premiers coups de feu venaient d'éclater.
Je crois que le calme est à peu près rétabli, car étaient massés des tanks et des braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat, vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent, le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes en costume national, ayant le ruban noir frappé de la cocarde bleu-blanc-rouge, lui ont offert un bouquet tricolore. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain lui présente son fauteuil, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel. Et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Les coups de feu crépitent toujours. Les salauds. Vous entendez la foule qui applaudit. Le chapitre des chanoines est en train, malgré tout ce brouhaha, tout ce tumulte, et il faut le dire, toute cette agitation, de présenter ses devoirs au général de Gaulle, qui reste calme et qui se montre dans son froid vraiment exceptionnel. Le calme est revenu. Tous les gens qui s'étaient dispersés sortent un peu de sous leurs chaises, de sous les bancs, des petites chapelles qui sont sur les côtés et applaudissent le général de Gaulle qui vient de s'asseoir dans son fauteuil. Le cardinal Thuard n'est pas encore arrivé, mais il ne tardera pas, je l'espère. On vient de fermer les portes. Et le soldat du général Leclerc ont rétabli l'ordre. Ces bandes de salauds qui tirent depuis déjà 2 ou 3 jours sur les toits, quelques-uns s'étaient dissimulés dans les galeries et avaient essayé de faire le coup de feu sur le général de Gaulle jusque dans l'église même, profanant ainsi ce lieu sacré, cette cathédrale de Paris, cette cathédrale de France qui a vu tant de tédéums de gloire se dérouler, entre autres celui de 1914-1918, où elle a reçu le général Foch, qui était victorieux comme l'est aujourd'hui le général de Gaulle, et qui rentre en vainqueur, en libérateur, dans Paris, capitale de la France, et dans Notre-Dame, cathédrale de France. Voici que rentrent dans l'église les soldats du général Leclerc, casqués, et qui vont essayer de faire de la police, car encore des coups de feu ont été tirés. Malgré cela, vous entendez les chants. Malgré cela, vous entendez les chants religieux qui commencent. La porte entrouverte, il me semble que le calme s'est rétabli à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'église, ça tire encore et on pourchasse les salopards dans les galeries. Ce Gloria chanté sous les pétarades est vraiment une chose magnifique. Vous ne pouvez pas savoir l'émotion. L'émotion de tous ces gens qui sont rassemblés, qui ont eu certainement peur, mais qui ne l'ont pas montré, et qui en tout cas ont prouvé au chef, au nouveau chef de la France, toute leur profonde affection et tout leur amour.
Nous venons d'entendre des témoignages qui, pour n'être pas nombreux, n'en sont pas moins très remarquables, et nous pouvons déjà nous faire une idée sur cette journée mémorable. Je vais vous demander, Jean Berlet et Jean-Pierre Morfait, de me dire ce que vous avez pu remarquer en écoutant ces témoins. Jean Berlet.
Eh bien, il y a peu de détails, n'est-ce pas, qui diffèrent. Il y a les portes qui sont ouvertes ou fermées. Il y a les coups de feu qui commencent à un certain moment ou à un autre. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent témoignage parce que nous qui n'avons malheureusement pas été à Paris sur là, nous avons une vue panoramique de cette chose extraordinaire qui s'est passée et qui est dans le fond très mystérieuse puisque personne ne sait qui a tiré, dit d'où on a tiré, pourquoi il n'y a pas eu de blessés, etc. C'est tout très très mystérieux tout ça.
Ce que nous pouvons tout de même constater, c'est qu'il paraît évident que les tireurs étaient d'abord à la Galerie des Rois et non pas des Saints derrière les statues et qu'ils ont pénétrer ensuite à la même hauteur
dans les tours,
et que c'est de la galerie qu'ils ont évidemment tiré. Jean-Pierre Morfait.
Moi, je suis très inquiet, parce que je trouve que les différences sont tout de même assez importantes, et que nous avons là pour confronter avec les témoignages le reportage qui, non seulement est authentique, mais qui pourrait tout de même être soumis à la fragilité du reporter, mais qui est illustré d'une façon sonore qui, elle, est indiscutable.
Oui, mais le reporter, est-ce qu'il se rappelle exactement l'heure à laquelle il a commencé, justement, à pouvoir enregistrer? C'est la chose qui paraît la plus sérieuse, et peut-être assez fragile, elle aussi, quant à l'heure.
Mais oui, dans la fragilité du témoignage, n'intervient pas seulement le phénomène de la mémoire, il y a le fait que le témoin lui-même est surpris au moment même de l'événement, à telle enseigne que Marcillac nous a dit n'avoir pas pu distinguer d'où venaient les coups de feu. Donc même un témoignage absolument authentique peut laisser passer des éléments importants.
Oui, il semble en effet que Marcillac nous a donné pourtant une heure exacte. Or, un des témoins nous a dit que la cérémonie avait été avancée d'une heure à la demande du général de Gaulle, alors que Marcillac indique qu'il a commencé son reportage plus tard qu'il n'était prévu. Or, je ne crois pas qu'on lui eût demandé de parler pendant deux heures sur la foule qui arrivait peu à peu. De notre côté, les portes ouvertes ou fermées, en effet, nous l'avons tous remarqué. Et il y a aussi le moment du premier coup de feu. Pour Marcillac, et nous avons entendu le disque, le coup de feu, ou tout au moins, disons, nous entendons sur le disque une première détonation dont l'origine n'est peut-être pas très précise, mais qui, en tout cas, éclate avant l'arrivée du général de Gaulle. Alors qu'un des deux témoins, la personne qui nous a dit qu'elle avait été emportée par la foule jusque vers le cœur, nous a fait remarquer que le général de Gaulle était entré dans le silence et que c'est aussi tout après son arrivée qu'on avait entendu le premier coup de feu. Est-ce l'écho des détonations entendues dans la rue d'Arcole dont nous a parlé un des témoins ?
Moi, je trouve que, en logique, c'est cette dame qui devrait avoir raison.
Exactement.
Parce qu'il est probable que les tireurs attendaient l'arrivée du général de Gaulle pour essayer de le tuer.
Mais non, mais il y a une autre chose. Si les tireurs voulaient tuer de Gaulle, ils savaient qu'ils venaient par la rue d'Arcole, d'où la présence des tireurs dans la galerie extérieure, dite Galerie des Rois. Et puis, l'ayant raté, probablement, parce que la jeune fille dit que le premier coup de feu a été entendu dans la rue d'Arcole, semblant venir de la tour, c'est-à-dire de la galerie. Ça corrobore ce que dit M. Delerue. Mais l'ayant raté, puisqu'il est entré sans être touché, eux sont également rentrés aussi dans l'intérieur de la cathédrale et se sont mis à tirailler.
Donc il semble certain que de Gaulle était déjà à l'intérieur de la cathédrale quand les coups de feu ont commencé, c'est la logique même.
Après peut-être en avoir évité un dans la rue d'Arcole.
Sûrement, sûrement. Et alors évidemment que Marcillac a pu entendre des coups de feu qui venaient de l'extérieur.
Et qui ont été enregistrés.
C'est exactement mon sentiment. Je voulais donc dire que même là, le document authentique, c'est-à-dire l'enregistrement, n'est peut-être pas encore une preuve des événements. Et que nous sommes obligés, possédant un document qui, d'après nous, devait établir la vérité, de croire peut-être davantage les témoins dont la bonne foi, la mémoire, la sincérité et même la qualité du souvenir et de l'expression nous ont paru authentiques.
C'était « Soyez témoins », une production d'André Gillois, avec Jean-Pierre Morfait, Jean Oberlé et le concours des auditeurs. Avec ce soir, Raymond Marcillac. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morfait. Montage radiophonique, Jacques Guinchard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 26 janvier 1956.